Alors nous allons continuer la lecture du livre de la physique d'Aristote. Si vous vous souvenez, on avait devant cette interrogation d'Aristote, il est nécessaire que le principe existe, soit un principe unique, soit plusieurs, et s'il est unique, en étant soit immobile, comme le disent Parménide et Mélissos, soit soumis au mouvement, comme le disent les physiciens, déclarant que le premier principe, les uns l'air, les autres l'eau, donc on voit très bien l'école de Milet, hein. Ou alors, s'il existe en étant plusieurs, ceux-ci existeront en étant en nombre, soit fini, soit infini. Alors prenez, c'est intéressant de voir comment Aristote utilise la méthode de division. La méthode de division, c'est Platon. Il faut rendre à chacun ce qui est à chacun. La méthode, c'est très intéressant du reste, parce que la méthode de division est commune à la pensée dialectique et à la pensée analogique. Donc, c'est toujours la plateforme. Et c'est quelque chose de très très fondamental dans la vie de l'intelligence. L'intelligence divise. Vous vous demandez pourquoi l'intelligence divise, hein ? L'intelligence divise parce que l'intelligence a un mode abstrait de connaissance. Et donc elle atteint un tout. Et c'est le tout qui est divisé en parties. Il ne faut jamais oublier ça. Si l'intelligence était intuitive, elle ne diviserait pas. Mais l'intelligence abstractive divise. Et c'est le tout qui est divisé. C'est pour ça que pour comprendre ce que c'est que la dialectique, il faut toujours comprendre qu'avant la thèse et l'antithèse, il y a le tout. Parce qu'on oublie trop, parce qu'on dit thèse, antithèse, mais non, il y a le tout, on divise thèse et antithèse et le tout. Et le tout est confus avant et le tout n'est plus confus après. Et bien dans la méthode d'Aristote, qui n'est pas la méthode dialectique, bien qu'Aristote soit assez dialecticien, n'oublions jamais, Aristote est dialecticien quand il fait une topique. Toujours la topique, Aristote le dit, la topique demande d'être vue d'une méthode dialectique. Parce que dans la topique, il est en face de l'opinion des autres. Et alors l'opinion des autres, ça doit se classer. C'est une classification. Et vous voyez bien qu'ici, c'est une classification. Hein. Il est nécessaire que le principe existe, soit un, très bien, mais d'où ça vient, ça vous tombe du ciel. Soit un, soit plusieurs, soit multiples, s'il est unique, et là on divise. Alors faites vous-même, parce que c'est un petit exercice très simple, mais qui est très nécessaire, autrement, vous ne comprenez pas. Hein. Alors faites vous-même ces petites colonnes, on divise. Et posez-vous la question, qu'est-ce qu'on divise ? On divise toujours un tout. Et un tout confus, qui a besoin d'être divisé. Et alors les touts peuvent être divers. Il y a des touts quantitatifs, il y a des touts qualitatifs, il y a des touts virtuels, il y a des touts... Bon, c'est toutes les classifications logiques de la division du tout. Et alors posez-vous progressivement la manière différente dont on divise quand on est devant une pensée dialectique et quand on est en face d'une pensée analogique. Mais la division est l'opération fondamentale de la vie d'intelligence. C'est une opération, c'est l'intelligence divise. Et vous voyez pourquoi ? Justement, parce que l'appréhension n'est pas le jugement. Alors, je continue. Il cherche d'ailleurs aussi la manière semblable, il cherche aussi de manière semblable ceux qui cherchent combien nombreux sont les êtres. Alors, voyez le parallélisme, c'est ça qui est intéressant aussi à noter. Le parallélisme que fait ici Aristote entre le point de vue des principes et le point de vue des êtres. Vous voyez, vous retrouvez quelque chose de semblable. Chercher le tiesti de ce qui est, chercher le tiesti de la substance, c'est la même chose. Donc vous retrouvez. Ça, c'est intéressant parce que c'est par là progressivement on entre dans la pensée d'Aristote. Au début de la métaphysique, du livre de Zétan, cette fameuse chose où j'ai dit que Bergson, Gilson était tombé dans le fossé. Parce que Gilson dit si la question du tiesti de l'être et la question du tiesti de la substance est la même, ça vaut que pour Aristote, l'être et la substance sont la même chose. Il ne faut jamais oublier ce petit raisonnement de Gilson. Parce que Gilson a fait des petits. Et après Gilson, tous répètent la même chose. Alors c'est intéressant de voir l'erreur qu'il a faite. Et c'est intéressant de revoir ici, vous voyez, quelque chose d'analogue. Il parle du principe, et puis ici il parle des êtres. Il cherche d'ailleurs aussi de manière semblable, donc de manière semblable, analogiquement, ceux qui cherchent combien nombreux sont les êtres. C'est en effet en cherchant les éléments à partir desquels existent les êtres qu'il cherche, se demandant. Donc vous voyez, c'est en effet, alors, entre parenthèses, hein, le texte est plus concis, hein, alors on l'explicite. Il faut toujours être attentif à ce qui est ajouté, parce que ce qui est ajouté, vous avez le droit de le balancer. Oui, nous reprenons le texte intégralement, n'est-ce pas ? Donc, en effet, en cherchant les éléments, à partir desquels existent les êtres, à partir desquels existent les êtres, est-ce que c'est les éléments ou les principes ? Je pose la question, hein. Pas pour faire la critique du texte, hein. On est entre nous, alors c'est pas pour ça, vous n'allez pas dire à notre cher Marc Balmès, il critique votre texte. Mais non, mais je cherche la vérité. Alors, est-ce que à partir desquels existent les êtres, il cherche. On vient de dire avant les principes. Est-ce que à partir desquels, ça peut être les éléments, mais ça peut être aussi les principes. Alors là, on choisit les éléments. Et précédemment, on a vu les principes. Alors, je ne sais pas. Je vous dis, posez une question. Il ne faut jamais suivre une traduction bêtement. C'est le texte grec qui fait autorité. Ce n'est pas la traduction. N'importe quelle traduction. C'est le texte premier qui fait autorité. Alors, c'est toujours intéressant de voir ça. Est-ce que ces éléments sont un ou plusieurs ? Est-ce que ces principes sont un ou plusieurs ? Pour Aristote, ce n'est pas la même chose, éléments et principes. Hein ? Alors, je sais très bien à partir de quoi ça peut s'entendre des deux façons. Ce qu'on peut dire qu'un mix à partir des éléments. Mais comme juste avant, on a parlé des principes, je vous pose la question. Est-ce que ces éléments sont un ou plusieurs ? Et sont-ils plusieurs ? Est-ce qu'ils sont finis en nombre ou infinis ? De sorte que le principe et l'élément, vous voyez, il reprend le principe. Le principe et l'élément dont il cherche sont-ils un ou plusieurs ? Soit alors d'abord le propos d'examiner si l'être est un et immobile. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. C'est ce passage du principe et de l'être. Ça me semble très intéressant pour comprendre la pensée d'Aristote. Vous voyez, faites le parallélisme avec le point de vue de Lousia. Je répète, parce que c'est une question quand même très importante dans le livre Zeta, le tiesti. Bon, Aristote ne cesse de poser la question du tiesti. Le tiesti du Toan et le tiesti de Lousia. C'est la même question. Prenez quand Aristote dit que c'est la même question. Est-ce que c'est la même question analogiquement ou univotement, hein ? Ici, il dit semblable. Ça va mieux. C'est curieux, hein ? C'est très curieux. C'est la même question au milieu interrogation. Ici, il montre la division par rapport au principe. Les principes et les éléments. je mets entre parenthèses éléments, je fais l'inverse. Vous voyez ? Et puis, il donne la diversité des principes, et puis il dit que c'est la même chose pour l'être. Donc on a quelque chose, ici c'est de l'ordre de la division, ici c'est de l'ordre de l'interrogation. Interrogation et division, ça se tient. Puisque toute interrogation permet la division. Comment on divise? C'est par l'interrogation. Si on divise analogiquement, quand on divise quantitativement, on n'a pas besoin de l'induction. C'est toute la différence entre la dialectique et la pensée analogique. Quand on divise par l'interrogation, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en parallèle ces deux textes. Quand on divise par l'interrogation, on divise analogiquement. Quand vous divisez quantitativement, vous n'avez pas besoin de l'induction. Alors quand vous supprimez l'induction, est-ce qu'il ne reste plus qu'une seule division, la division qui conduit à la dialectique? Alors vous voyez, il serait très intéressant si on essayait de comprendre un petit peu ça, parce qu'on verrait que la scolastique, ayant mis entre parenthèses le point de vue de l'induction, la philosophie, progressivement, devient dialectique. Je crois qu'il y a... Il y a un poids, c'est le poids quantitatif. Et la quantité, c'est toujours du côté du conditionnement. C'est le poids du conditionnement. C'est le poids de ce qui est premier génétiquement. Qu'est-ce qui est premier génétiquement? C'est toujours le conditionnement. Et c'est toujours ce qui est quantitatif. La quantité est première génétiquement, et la qualité est première selon l'ordre de nature. Bon. Alors, je crois que nous pouvons maintenant... Alors là, ce serait très intéressant, mais c'est au fond, c'est pas directement ce qui nous intéresse. Alors après, Aristote va donner toute la topique. Je passe, hein, puisqu'on ne peut pas tout voir. Chapitre 7. Vous voyez, la topique, la pensée dialectique d'Aristote. C'est très important. C'est pas parce que je saute que c'est pas important. Et c'est parce que j'essaie de comprendre ce que fait Aristote. Si on avait le temps, on verrait la manière dont Aristote regarde les physiciens. Et donc, de l'endroit où nous sommes jusqu'au chapitre 7, c'est la pensée dialectique d'Aristote par rapport aux opinions des physiciens. Par rapport aux opinions de ceux qui émuent. De ceux qui émuent. Les principes de ceux qui émuent et l'être. Toujours entre eux. Quant à nous, là vraiment, Aristote revient après les topiques. Quant à nous. Donc c'est lui. Hein. Et c'est lui et c'est nous. Donc, exprimons-nous comme suit, en en venant d'abord à ce qui concerne tout devenir. Vous voyez, c'est important. Donc on revient sur le point de vue du devenir, et on essaie de comprendre ce que le devenir, de toute façon générale, n'oubliez pas, hein, nous sommes dans ce premier livre, qui est un livre critique, je crois, où Aristote essaie de montrer, de justifier qu'il existe une philosophie de ce qui est mu. Pour justifier qu'il y a une philosophie de ce qui est mu, il faut justifier qu'à l'intérieur de ce qui est mu, l'intelligence peut découvrir des principes. Si le devenir n'a pas d'intelligibilité propre et une intelligibilité qui permet la découverte de principes. Il n'y a pas de philosophie de la nature. Or, n'oublions pas qu'il y a Héraclite, le Pandareï, tout cool, et que Platon n'a pas dépassé Héraclite. Platon a subi l'influence d'Héraclite. C'est évident que pour Platon, il n'y a pas de philosophie du devenir. Il n'y Il n'y a qu'une philosophie de la forme et de l'être. Platon, je crois, à partir du Parménide, pour ceux qui s'intéressent à Platon, c'est une des questions qu'on doit se poser, je crois qu'à partir du Parménide, où Platon a établi l'un au-dessus de tout, je crois que Platon quand même a essayé de voir s'il n'y avait pas possibilité de comprendre mieux ce que c'est que l'induction. Je crois. C'est plus seulement la réminiscence, mais il y a l'induction. Autrement dit, je crois, c'est une thèse que je vous donne là, c'est une thèse que je n'ai pas pu justifier entièrement, donc il reste à l'état plutôt intuitif qu'une thèse. J'avais lancé un étudiant à Fribourg pour faire ça, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, malheureusement. Ça m'aurait beaucoup intéressé de voir comment, à partir du Parménide, il y a, dans la pensée de Platon, une recherche nouvelle de ce que c'est que la sensation et l'expérience. Et par le fait même, une possibilité de l'induction. Parce que si la sensation n'est pas une véritable connaissance, il ne peut pas y avoir d'induction. La condition sine qua non pour que l'induction soit un procédé qui nous fasse découvrir le principe, il faut que la sensation soit tout imprégnée d'intelligibilité. Et que par la sensation, je touche vraiment le réel. Autrement dit, dans notre langage à nous, que le jugement d'existence puisse émerger à partir de l'expérience, et dans l'expérience. Et que la sensation n'est pas un mur qui arrête et qui empêche d'atteindre le réel. Alors quant à nous donc, exprimons-nous comme suit, en en venant d'abord à ce qui concerne tout devenir. Car ce qui est selon la nature, c'est, ayant dit d'abord les choses communes, de porter ainsi le regard de l'intelligence sur les choses qui concernent en propre chacun, chaque réalité particulière. Chacun, c'est chaque réalité particulière, c'est sûr. Pour Aristote, c'est la réalité, chacun. Donc, voyez bien, Aristote rappelle ici une petite méthode, comme toujours. C'est très curieux, hein, dans ce livre. Premier, Aristote rappelle toujours la méthode. C'est pour ça que j'ai dit que c'est plutôt une attitude réflexive et une attitude critique. Car ce qui est selon la nature, c'est ayant dit d'abord les choses communes, ayant dit d'abord les réalités communes, de porter ainsi le regard de l'intelligence sur les choses qui concernent en propre chaque réalité. On passe de l'universel vers le point de vue particulier. De fait, nous déclarons une réalité advenir à partir d'une autre et quelque chose advenir à partir de quelque chose d'autre en exprimant des réalités en jeu, soit celles qui sont simples, soit celles qui sont composées. Donc ici, Aristote touche tout de suite quelque chose d'extrêmement intéressant. De fait, nous déclarons une réalité advenir, donc venir, le mouvement comme tel, la genèse d'une chose. Quand parlons-nous d'une genèse d'une chose? Et ça qui est intéressant, parce que c'est ça qu'on essaie de comprendre, l'intelligibilité de la génésie. L'intelligibilité de la genèse, l'intelligibilité de ce qui est en mouvement, de ce qui est en devenir. De fait, donc, il le prend comme une constatation, si vous voulez. Nous déclarons une réalité advenir à partir d'une autre, et quelque chose advenir à partir de quelque chose d'autre. Pour qu'il y ait devenir, il faut qu'il y ait dualité. Voilà, ça c'est l'idée première. Hein. Le devenir implique la dyade. Puisqu'on devient à partir d'un autre, qui est autre que ce qu'on devient. Autrement, on ne devient pas. Ce qui est simple n'implique pas de devenir. Vous voyez, la grande intuition de Parménide, hein, qu'Aristote reprend ici. Ah, sept contrats, vous comprenez bien, puisque pour Parménide, on ne regarde que l'être. Aristote va essayer de sauver la dyade, hein, vous voyez, du naufrage de Parménide et du naufrage d'Héraclite. Sauver la dyade et montrer que dans la dyade, il y a une intelligibilité. Tout devenir implique une dualité. Tout devenir. Autre, autre. C'est intéressant parce que c'est justement ça, c'est notre conditionnement. Notre conditionnement est toujours dans le devenir. Vous n'avez aucune expérience de la simplicité. Mais vous avez l'expérience de la complexité. Vous avez l'expérience du devenir. Toutes vos expériences sont des expériences du devenir. Et le devenir implique toujours autre, autre, à partir de quelque chose d'autre, en exprimant soit celles qui sont simples, soit celles qui sont composées. Voici ce que je veux dire. Il est possible de dire qu'un homme devient cultivé. Il est en outre possible de dire que le non-cultivé devient cultivé. Pour dire qu'on devient cultivé, il faut parler du non-cultivé, donc du sauvage. Puisque le non-cultivé, c'est le sauvage, vous voyez. C'est celui qui est nature. Ah, il est nature, ce bonhomme-là. Tandis que celui-là, oh, ce qu'il est conventionnel. Vous voyez, ça, c'est les deux catégories. Et alors, entre les deux, il y a le cultivé. C'est celui qui fait la synthèse entre le conventionnel et la nature, le sauvage. La vraie culture, c'est ça. Et ceux qui sont une fausse culture, c'est le conventionnel. Ça se voit tout de suite. Quand c'est assimilé, on est devant un homme cultivé. Quand c'est uniquement de l'appris, on est devant le conventionnel. C'est, les religieux apprennent une manière de se tenir. Oui. Au noviciat. Ah, on ne fait pas ça en vie religieuse. Bien. Très bien, on ne fait pas ça en vie religieuse. On ne vous explique pas pourquoi. Alors, c'est un conventionnel, après tout. Les carmélites doivent prendre des cuillères en bois. Très bien, une cuillère en bois. On prend des cuillères en bois. Pourquoi? Parce que pour Sainte Thérèse, les autres cuillères n'existaient pas encore. Bon, très bien. Alors, on prend les cuillères en bois. On prend les cuillères en bois. Et on continue. Conventionnel. Si vous comprenez et vous avez assimilé, vous voyez ce que vous devez garder et ce que vous ne devez pas garder. Alors là, il y a la culture. Au très grand sens. Pour bien comprendre la culture, il faut toujours les prendre les deux opposés. Le sauvage, c'est bien le sauvage, quoi. C'est reposant le sauvage devant le conventionnel. Mais c'est fatigant devant la culture. Extrêmement reposant le sauvage devant le conventionnel. Je ne sais pas, ça me repose. D'avoir un sauvage manger. Comparativement à avoir la convention terrible de gens. Bon, très bien. Mais c'est très fatigant de vivre avec des sauvages. Quand vous êtes cultivé. Faites des applications, hein. Au plan de la vie religieuse. Vous voyez, toutes les applications font de la vie religieuse. Oui, on pourrait faire ce serait très intéressant. Parce que ce serait celui qui est en opposition vis-à-vis de la vie religieuse, voyez. Et ça existe. Le non-religieux, c'est le non-cultivé. Le non-religieux, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu un formalisme dans la vie religieuse. Alors il veut se reposer non-religieux. Et si on est vraiment religieux et qu'on veut vivre avec le non-religieux, comme c'est fatigant. On dit, mais quoi? Non, il y a toute une dimension qui l'a échappé. C'est très important aujourd'hui. Parce qu'il y a des oppositions vis-à-vis de la vie religieuse, il faut essayer de comprendre. Alors faites le parallélisme entre le religieux et le cultivé. Vous comprendrez mieux. Voici ce que je veux dire. Il est possible de dire qu'un homme devient cultivé. C'est extraordinaire. C'est astucieux de découvrir ça. Comment découvrir que le devenir est intelligent, est intelligible? Alors, En cultivé, non cultivé. Il pourrait avoir ça, tout ce que ça veut dire, pour un Athénien de cette époque. Le barbare, hein, il savait bien ce que c'était. C'était le sauvage, le barbare. Qu'un homme devient cultivé, il est en outre possible de dire que le non cultivé devient cultivé, ou que l'homme non cultivé devient homme cultivé. Ainsi donc, exprimant le simple, j'énonce ce qui devient homme et non cultivé, et ce qui advient, à titre de réalité simple, le cultivé. Ce qui advient, ce qui est au terme, le cultivé. Le cultivé est le terme. Et ce qui devient, c'est le non cultivé. L'homme est le non cultivé. Vous voyez? Comme c'est intéressant, parce que sous-jacent à ça, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le devenir d'Aristote, parce qu'il y a deux philosophies du devenir. La philosophie du devenir, selon Aristote, selon Hegel, sont les deux grands philosophes du devenir. Donc c'est très intéressant de voir ça. Donc vous avez, pour Aristote, hein, laissons Hegel de côté maintenant, puisque c'est suffisant, mais c'est intéressant de voir comment, si Aristote n'avait pas existé, Hegel n'aurait sans doute pas existé. Je crois. Parce qu'Aristote est quand même le grand philosophe du devenir. Hein. Ça, le devenir dans le monde physique et le devenir dans le monde de l'intelligence. Comparativement à Platon, qui lui est le philosophe de l'intelligible, des formes en soi, donc du simple. Seul le simple m'intéresse. Donc le philosophe de l'intuition, le philosophe de tout ça. Vous voyez, le devenir n'existe pas chez Platon, c'est le non-être. Alors Aristote va essayer de devenir, va essayer de comprendre cette philosophie du devenir. Alors on a non cultivé et cultivé. Oui. Donc antithèse et thèse. Hein. Entre deux, qu'est-ce qu'il y a ? Oh. C'est l'homme qui fait le lien entre les deux, c'est évident. Non cultivé et cultivé. Donc vous avez non-être et être. Entre les deux. Et puis devenir. Le devenir, c'est la synthèse de l'être et du non-être. Bien. Tandis que pour Aristote, c'est pas ça. C'est l'homme sujet de cultiver et non cultivé, parce que d'abord il est non cultivé. L'homme ne deviendrait pas cultivé s'il n'était pas non cultivé. Tout l'avantage du non cultivé, c'est qu'il a une promesse en lui. Le cultivé n'a plus de promesse. Alors vous pourriez ajouter. Le vrai cultivé demeure toujours capable d'être plus cultivé. Mais le conventionnel n'a plus de promesse. Parce que le conventionnel, c'est la formalisation. Il n'y a plus l'homme. Alors, s'il n'y a plus l'homme, il n'y a plus de promesse. Tandis que l'homme cultivé reste toujours un homme. Et donc, il reste toujours capable d'être cultivé. Un homme cultivé, c'est celui qui ne cesse de progresser. Le jour où vous dites, ah, mais c'est fini. Vous savez, j'ai terminé mes études de théologie. Je vais brûler mes bouquins de théologie, parce que maintenant, je commence ma vie apostolique. Mais, alors, vous n'êtes pas un homme cultivé quand vous faites ça. C'est le conventionnel. On a passé ses examens. Donc, ainsi donc, exprimant le simple génome, ce qui devient l'homme et le non cultivé. Et ce qui advient, en réalité, c'est les deux. Vous voyez, ce qui devient, c'est l'homme non cultivé. Mais je peux analyser en disant l'homme et le non cultivé, mais c'est l'homme cultivé. L'homme non cultivé. Et ce qui advient, à titre de réalité simple, le cultivé. Tandis que, exprimant le composé, nous énonçons, et ce qui advient, et ce qui devient. Quand nous déclarons, par exemple, que l'homme non cultivé devient cultivé. Rappelez-vous encore, parallèlement à ça, ce qu'Aristote dit dans le livre Zeta, chapitre 17. Quand Aristote se dit, on n'interroge jamais quelque chose qui est simple. Toute interrogation porte sur quelque chose de composé. Quelque chose qui est simple ne suscite aucune interrogation. On le saisit ou on l'ignore. Tandis que c'est une réalité composée qui est toujours qui suscite. Vous voyez, on revient, tu vois, c'est intéressant parce qu'on retrouve le parallélisme hein, entre les deux. De ces réalités, en outre, on ne dit pas seulement qu'elles deviennent ceci, mais aussi qu'elles adviennent à partir de cela. L'on dit, par exemple, à partir d'un homme non cultivé, un homme cultivé. Mais c'est très grec, ces choses-là, vous voyez, c'est d'une simplicité. Tout le monde peut comprendre ça, quand même. Parce que, mais je sais bien que c'en est uniquement barbare, c'est très difficile de comprendre le cultivé. Il faut d'avoir fait un tout petit peu le voyage. Un tout petit peu. Si on n'a jamais fait le voyage, on considère que l'homme à l'état brut, c'est l'homme le plus merveilleux qui soit. Vous voyez, on pourrait regarder là aussi hein, la différence avec Rousseau. Ce serait intéressant. Rousseau lisant ça, Jean-Jacques lisant ça, vous voyez. C'est intéressant. Il faut l'homme, la nature, c'est le seul qui est parfait. Donc il ne devient pas. Dès qu'il y a un point de vue de culture, ça devient quelque chose de mauvais. On dit par exemple qu'advient à partir d'un homme non cultivé, un homme cultivé. Mais cela ne se dit pas touchant toutes les réalités. On ne dit pas en effet que l'homme cultivé serait advenu à partir de l'homme, mais que l'homme est devenu cultivé. Des réalités qui deviennent d'ailleurs, parce que ça vous comprenez, on peut aller assez vite là-dessus, mais c'est très astucieux. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Et vous voyez que pour nous, nous voyons bien tout ce qui est sous-jacent là-dedans, c'est que la dyade, puisqu'il s'agit de trouver la dyade va se comprendre à partir de la puissance et de l'acte. Mais ce n'est pas dit ici. Hein. Mais si je transpose du côté philosophique, du côté de l'être, c'est ça. La condition sine qua non pour que le mouvement existe, c'est qu'il y ait la puissance. C'est qu'il y ait du non cultivé. C'est la condition sine qua non pour que le mouvement existe. S'il n'y a pas la puissance, il ne peut pas y avoir de mouvement. Parce que la puissance est source de complexité. Permet justement le mouvement. Permet la transformation. Alors, c'est sous-jacent, c'est pas dit ici. On ne dit pas, donc, mais cela ne se dit pas touchant tous les cas. On ne dit pas en effet que l'homme cultivé serait advenu à partir de l'homme, mais que l'homme est devenu cultivé. Des réalités qui deviennent, d'ailleurs, de celles qui deviennent, oui, des réalités qui deviennent, d'ailleurs, de celles qui deviennent, de la façon dont nous disons devenir les réalités simples, il y a deux cas. Alors, la division ici. L'un, où la réalité en question devient tout en demeurant. L'autre, où elle devient en ne demeurant pas. En effet, l'homme, tout en devenant cultivé, demeure homme et existe comme tel. Et en demeurant homme, il est toujours capable de se perfectionner. Tandis que le non-cultivé et l'inculte, eux, ne demeurent pas, ni pris simplement, ni posés en composant avec leur sujet. Donc, comprenons bien ce qui est abandonné et ce qui demeure. Qu'est-ce qui demeure ? C'est le sujet. C'est ce qu'on verra. C'est pour ça que pour qu'il y ait mouvement, il faut que sujet et deux contraires. Vous voyez? On voit tout de suite la solution qui va être donnée après. Les deux contraires et le sujet. Et c'est ça l'intelligibilité du devenir. Donc ici, il regarde simplement, vous voyez, il est devant des propositions très très simples. Il regarde les possibilités qu'il y a. Ces discernements faits, donc, c'est capital de faire ça au point de départ. Hein. De jouer sur homme, non cultivé, cultivé. Et à partir de ces trois, faites toutes les possibilités. Dans homme cultivé, qu'est-ce qui demeure? Est-ce que le non cultivé demeure dans le cultivé? Non. Le cultivé est contraire au... Le cultivé est contraire au non cultivé. Donc le cultivé supprime le non cultivé. Mais l'homme demeure. Donc si l'homme demeure, l'homme est capable d'être cultivé, non cultivé. Il va faire donc une union très particulière d'être sujet des deux contraires. Et c'est parce qu'il est sujet des deux contraires qu'il y a une intelligibilité dans le mouvement. Si il n'était pas capable d'être sujet des deux contraires, et qu'il n'y a que les deux contraires, il n'y aurait aucune intelligibilité. Vous seriez devant une continuité. Fameuse chose d'argument de Zénon. On ne voit pas la continuité. Donc les choses sont juxtaposées les unes à côté des autres. Ces discernements faits, il est possible d'admettre, en partant de toutes les réalités soumises au devenir, et pourvu qu'on y prête attention, ça c'est le petit argument d'Aristote, il faut faire un petit peu attention. Ceci, que dans le devenir, ainsi que nous l'avons dit, toujours quelque chose doit être donné qui demeure sous-jacent. Donc, toujours quelque chose qui doit être sous-jacent, c'est suffisant, à savoir ce qui devient et ce quelque chose. Et le sous-jacent est composé. Ce qui devient est ce. Ce déterminé. Le déterminé, c'est le cultiver. Même s'il est un quant au nombre, néanmoins, n'est-ce pas un quant à la forme eidétique? La forme eidétique, c'est eidos, hein, pour distinguer de la morphée. Néanmoins, qu'il n'est pas un quant à la forme eidétique, car ce qui se prend selon la forme eidétique et ce qui se prend selon l'expression rationnelle, je le dis la même chose. Ce que pour l'homme est être et ce que pour l'inculte est être, en effet, ce n'est pas la même chose. Et dans le devenir, l'un demeure, tandis que l'autre ne demeure pas. Ce qui n'est pas opposé, d'une part, demeure, car l'homme demeure, tandis que les termes opposés, cultivé et inculte, ne demeurent pas. Non plus que ce qui est composé à partir des deux, de ces deux éléments. L'homme inculte, par exemple. C'est évident que l'homme inculte ne demeure pas dans l'homme cultivé. Donc l'inculte disparaît et demeure uniquement l'homme. Oui, c'est pour essayer de montrer que la dyade n'est intelligible que grâce à un troisième terme. C'est ça qu'Aristote veut montrer. Il n'y a pas d'intelligibilité de l'opposé sans un sujet des opposés. Alors là, évidemment, ça tient avec une chose très intéressante, sous-jacente à ça. C'est toute la question des opposés chez Aristote. Ce qu'Aristote dit au terme des catégories. Dans l'opposition de contradiction, c'est-à-dire être et non-être, il n'y a pas de sujet. Alors, si l'opposition être et non-être n'implique pas de sujet, c'est donc inintelligible. Le principe de non-contradiction est donc inintelligible. Je pose la question, parce qu'au fond, c'est ce qu'Aristote vient montrer ici. Ce que nous venons de lire, hein, si je le résume en deux mots, c'est ça. La dyade n'est intelligible que s'il y en a trois, un troisième qui apparaît. Et c'est le troisième qui demeure, qui donne l'intelligibilité des deux, et qui me permet de comprendre l'opposition. Puisque quand le cultivé est là, le non-cultivé disparaît. Et le cultivé s'oppose au non-cultivé. Mais en réalité, qu'est-ce qui demeure? C'est l'homme. L'homme est présent dans le non-cultivé, l'homme est présent dans le cultivé. Et c'est l'homme qui donne cette intelligibilité. Et c'est vrai. Quand vous êtes en face d'une opposition, c'est, vous la comprenez parfaitement que grâce au sujet. Alors je pose l'opposition jusqu'au bout. Quand vous êtes en face de la non-contradiction, vous avez être et non-être. Je dis ça, c'est parce que justement, dans l'hégélianisme, les deux sont confondus. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Être et non-être. Alors c'est inintelligible. Alors voyez ce qu'il faudrait. Je ne sais pas ce que vous répondriez. Hein. Je vous maîtrise cette colle, ça m'intéresserait beaucoup de voir ce que vous répondriez. Vous voyez. Entre être et non-être, il n'y a pas de mouvement. Donc c'est inintelligible. Ce que je cherche, c'est le devenir. C'est l'intelligibilité du devenir. Or, justement, quand je suis en face de la dyade toute pure, être et non-être, il n'y a pas de mouvement. C'est inintelligible. C'est l'intelligence. Et voyez, alors là, c'est l'astuce de Hegel. Le côté génial, mais terriblement génial. La subjectivité transcendantale qui va remplacer le devenir. Et ça, c'est tout légal. Une fois qu'on a compris ça, on peut y aller. Entre être et non-être, il n'y a pas de devenir. Donc, objectivement, il n'y a pas d'intelligibilité, il n'y a pas de devenir. Mais qu'est-ce qui affirme? Qu'est-ce qui nie? C'est l'intelligence. Et donc, c'est l'intelligence qui, elle, va remplacer le sujet. Et c'est elle qui devient. Et l'intelligence ne sera plus saisie qu'à l'intérieur du devenir. Il n'y a pas de vie intellectuelle en dehors du devenir, donc en dehors de la dialectique. Parce qu'elle pose l'affirmation et la négation. Vous voyez, c'est là où on voit que Hegel est encore aristotélicien. Mais il inverse. Il est encore aristotélicien, parce qu'il faut trois termes pour que ce soit intelligible. Être et non-être ne sont intelligibles que si vous trouvez un troisième terme. Le troisième terme, il n'est pas objectif, puisque le non-être détruit l'être. Donc il n'y a rien. Vous voyez, c'est les deux chiens qui se mangent, il reste les deux queues. Il n'y a plus rien. Le chien disparaît. Alors, être et non-être, ça se détruit, donc il n'y a rien, il n'y a pas de sujet. Mais il y a l'intelligence qui pose l'être et le non-être. Et l'intelligence posant l'être et le non-être me permet, justement, par le point de vue de l'intelligence, de comprendre qu'il y a une synthèse possible. Mais la synthèse n'est plus objective, elle est subjective. Et donc, l'intelligibilité profonde est toujours subjectif. Puisqu'au point de départ, être et non-être, la seule intelligibilité que vous avez est subjective. C'est très fort, ça. Et à partir de là, vous entrez dans l'engrenage. C'est pour ça que c'est très important. Réfléchissez quand vous voyez ce début de la physique d'Aristote, qui est très intéressant sous ce point de vue-là. Philosophe du devenir. Et Hegel, philosophe du devenir. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Je ferai dans le ciel. Les deux grands philosophes du devenir, Aristote et Hegel. C'est les deux grands philosophes du devenir. Mais Aristote, philosophe du devenir, respecte l'être. Hegel, philosophe du devenir, ne respecte plus l'être. Pourquoi ? Parce que c'est l'intelligence qui fait la synthèse de l'être et du non-être. Et en faisant cette synthèse de l'être et du non-être, l'intelligence, c'est pas l'être. C'est l'intelligence dans sa vitalité, capable d'affirmer nier. Mais c'est pas l'intelligence dans son objectivité. L'intelligence dans son objectivité est relative, donc elle n'est pas première. L'intelligence dans sa vitalité est autonome et première. Merci.